Chapitre 7. 20 minutes plus tard, nous nous trouvons devant la porte d'entrée du 12 Locust Street. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Même si la douche d'Enzo a été rapide, il est ensuite descendu en jean froissé et t-shirt parce que, c'est Enzo, quoi. J'ai donc dû le renvoyer à l'étage pour enfiler quelque chose d'un peu plus présentable. Il porte maintenant la chemise noire que je lui ai achetée il y a 6 mois, quand j'ai remarqué qu'il n'avait absolument aucune chemise, et comme prévu, elle s'harmonise parfaitement avec ses yeux et ses cheveux foncés. Il est incroyablement beau. Comme prévu également, il semble si mal à l'aise qu'il pourrait bien s'arracher la chemise à tout moment. Suzette en tomberait raide. J'ai passé la tarte aux pommes au four, ce qui contribue à lui donner un aspect plus artisanal. Malheureusement, elle est aussi brûlante et je n'ai qu'une hâte, la poser. Nico tire sur sa chemisette à manches courtes, qui a encore plus de chances de finir par terre pour cause d'inconfort durant la soirée que celle de son père.
« On est obligé d'aller à ce dîner ennuyeux ?»«
Oui, » je réponds.
« Mais je veux jouer au baseball avec papa !»«
On restera pas longtemps. »«
Qu'est-ce qu'on va manger ?»«
Je sais pas. »«
Je pourrais regarder la télé pendant qu'on est là-bas »
Je tourne la tête pour fusiller mon fils du regard. « Non, tu ne peux pas. » Je cherche du soutien auprès d'Enzo pour découvrir qu'il a plutôt l'air de se retenir de rire. Il aimerait probablement bien pouvoir regarder la télé, lui aussi. Au bout d'une minute où mes mains subissent la brûlure de la tarte du supermarché, une inconnue ouvre la porte d'entrée. La soixantaine, elle est bâtie comme un joueur de baseball avec des cheveux grisonnants ramenés en arrière et un chignon serré. Elle a la posture la plus parfaite que j'ai jamais vue. Je parie qu'on pourrait lui poser un livre sur la tête. Il serait toujours en place 2 jours plus tard. Elle porte une robe à fleurs avec un tablier blanc par-dessus et me dévisage de ses yeux gris ternes avec le but apparent de me transpercer le crâne. « Bonjour. » Je commence d'une voix incertaine, en vérifiant le numéro de la maison sur la porte, comme si j'avais pu, aller savoir comment, me tromper de maison voisine. « Je suis Millie. Nous sommes ici pour...
Millie !»
Derrière la femme qui nous a accueillis, une voix s'élève des profondeurs de la maison. Une seconde plus tard, Suzette descend l'escalier, l'air un peu essoufflé et pourtant sans un seul cheveu de travers. Elle porte une robe verte qui me permet de remarquer que ses yeux sont en fait plus verts que bleus et un soutien-gorge miraculeux qui réussit le prodige de lui remonter les seins pratiquement jusqu'au menton. Ses cheveux caramel sont brillants, à croire qu'elle sort tout droit du salon de coiffure, et sa peau semble presque irradiée de lumière. Elle est magnifique. Je jette un coup d'œil à Enzo pour voir s'il la regarde, mais il est occupé à tripoter un bouton de sa chemise. Il la déteste vraiment, cette chemise. J'espère vraiment qu'il réussira à la garder jusqu'à ce que nous rentrions à la maison.
« Millie et Enzo !»
s'écrie Suzette en joignant les mains, montrant plus de ravissement que nécessaire dans un contexte de visite de courtoisie.
« Je suis tellement heureuse que vous ayez pu venir, et avec le quart d'heure de politesse de retard, comme il se doit. »
N'importe quoi, nous n'avons que 5 minutes de retard.
« Bonjour, Suzette, »
dis-je.
« Je vois que vous avez déjà rencontré Martha. »
poursuit notre hôtesse, le regard pétillant, en posant une main sur l'épaule de la femme.
« Elle vient nous aider 2 jours par semaine. Jonathan et moi sommes très occupés. Martha nous sauve la vie. »
« Oui, » je murmure. J'ai été la Martha de nombreuses familles dans le passé, mais je n'ai jamais réussi à jouer le rôle aussi bien que cette femme, de toute évidence. Elle a l'air d'une bonne tout droit sortie des années 50. Il ne lui manque qu'un petit plumeau et un de ses aspirateurs au moteur si énorme que c'en est comique. Pourtant, elle a quelque chose de déstabilisant. Peut-être parce qu'elle me fixe toujours comme si elle ne parvenait pas à détacher les yeux de moi. J'ai l'habitude que les femmes reluquent Enzo, mais elle ne s'intéresse ni à lui ni à mes enfants. Son regard est concentré sur mon visage, tel un rayon laser. Qu'est-ce qu'elle y voit de si intéressant? Est-ce que j'ai des épinards entre les dents? À moins que je ressemble à une célébrité et qu'elle ait l'intention de me demander un autographe.
Martha peut-elle vous apporter quelque chose à boire?
Nous demande Suzette à Enzo et moi, même si c'est lui qu'elle regarde.
De l'eau? Un verre de vin? Je crois que nous avons aussi un délicieux jus de grenade.
Nous secouons tous les deux la tête. Non, merci. je réponds.
Sûr ? Martha le fera volontiers.
Je tourne les yeux vers la gouvernante, toujours là, raide, qui attend le mot magique pour filer à la cuisine et nous chercher une boisson.
Sans problème,
confirme-t-elle de sa voix basse et rauque, comme si elle n'avait pas l'habitude de l'utiliser.
Merci, mais ça va, je lui assure, espérant qu'elle partira.
Elle ne le fait pas. Suzette remarque enfin Nico et Ada, patiemment blottis dans l'embrasure de la porte.
Et ce doivent être vos deux magnifiques enfants, tellement adorables.
Merci, dis-je. J'ai toujours trouvé bizarre lorsqu'on complimente l'enfant de quelqu'un que les parents répondent merci, comme s'ils étaient propriétaires de l'enfant. Et me voilà en train de bredouiller merci. Suzette reporte son attention sur mon mari.
Il vous ressemble trait pour trait, Enzo.
Pas exactement,
nuance-t-il, ce qui est un mensonge éhonté.
Ada a la bouche et les lèvres de Millie.
Je ne le vois pas, fait Suzette.
Elle ne le voit pas parce que ce n'est pas vrai. Aucun des deux ne me ressemble ni de près ni de loin. Et pendant que nous y sommes, aucun des enfants n'a ma personnalité non plus. Nico ressemble beaucoup à Enzo, et je ne sais pas d'où ma fille, si intelligente et réservée, peut bien sortir.
Au fait, reprend Suzette, je viens d'apprendre une nouvelle fantastique. Une des familles pour lesquelles travaille Martha a déménagé. Je parie qu'elle serait ravie de faire du ménage pour vous aussi.
Enzo et moi échangeons un regard. Bien sûr, j'adore l'idée que quelqu'un d'autre que moi fasse le ménage chez nous, mais nous n'avons pas les moyens.
Oh, c'est très gentil de votre part, vraiment, mais je ne pense pas...
Je suis libre le jeudi matin,
m'indique Martha.
Est-ce que le jeudi matin vous conviendrait ?
Enchaîne Suzette. Comment expliquer à cette femme, dont la maison fait deux fois la taille de la nôtre, que nous ne pouvons pas nous payer les services d'une femme de ménage ? Et même si nous pouvions nous en offrir une, il y a quelque chose chez Martha qui me met incroyablement mal à l'aise.
Au niveau horaire, ça conviendrait, mais...
Avant que je puisse trouver une excuse qui m'évite d'admettre que nous ne voulons pas des services de Martha, les yeux de Suzette tombent sur la tarte que je tiens. Elle laisse échapper un petit rire.
« Oh non, Millie, vous l'avez fait tomber en chemin ?»
Mince, on dirait que j'ai un peu forcé sur la note rustique. Dieu merci, je peux enfin poser la tarte sur la table basse de leur salon pendant que Martha disparaît dans la cuisine. Le salon est beaucoup plus grand que le nôtre. Tout dans leur maison est deux fois plus grand que chez nous, voire trois fois. L'extérieur est aussi vieux que le nôtre. La maison a été construite à la fin des années 1800 et peu de choses ont été modifiées. Mais, contrairement au nôtre, l'intérieur de leur maison a été entièrement refait. Enzo a promis de rénover chez nous de la même façon, mais je crains que ça ne prenne la majeure partie de la prochaine décennie.
« La maison est magnifique, » je commente. « Et que d'espace vous avez ?»
Suzette pose la main sur un grand meuble que, je pense, on appellerait une armoire. Je me demande si nous pourrions avoir une armoire chez nous.
De qui je me moque ? Nous aurons de la chance si nous pouvons nous acheter des chaises et des tables.
À l'origine, ces trois maisons étaient des fermes, nous explique-t-elle.
Ici, c'était la principale maison où vivaient des propriétaires, et le 13 Locust correspondait au quartier des domestiques.
Et notre maison ? Je demande.
Je crois que c'était les granges et étables.
Quoi ?
Cool ! S'exclame Nico. Je parie que ma chambre était celle des cochons.
Ok, elle doit se moquer de nous. Je veux dire, si l'endroit était destiné aux animaux, il n'y aurait pas d'escalier, si? Ou peut-être que l'escalier a été installé plus tard. C'est vrai que j'ai remarqué une odeur qui...
Jonathan!
S'écrie Suzette. Ses yeux bleu-vert sont posés sur l'escalier en colimaçon qui monte à l'étage, où un homme est en train de descendre à notre rencontre. Il porte une chemise blanche et une cravate bleu marine, et contrairement à mon mari, il a l'air très à l'aise habillé ainsi. Contrairement à mon mari aussi, il est par ailleurs complètement banal. Les traits de son visage sont fades, quoique agréables. Ses cheveux châtains soigneusement taillés, et il est rasé de près. Il ne mesure que quelques centimètres de plus que moi, et sa corpulence est fine. Il a l'air d'être le genre d'homme à se fondre dans n'importe quelle foule.
« Bonjour !»
dit-il avec un sourire naturel.
« Vous devez être Millie et Enzo, et compagnie !»
ajoute-t-il à l'adresse des enfants. Après la prétention de Suzette, Jonathan est comme une bouffée d'air frais.
« Oui, je suis Millie. Vous devez être Jonathan. »«
Exact. »
Il me tend la main. À la différence de la poigne mortelle de Suzette, sa paume est lisse et il ne fait aucune tentative pour briser ne serait-ce qu'un seul des os de ma main.
« C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. »
Jonathan serre ensuite la main d'Enzo, et s'il se sent un tant soit peu menacé par mon mari, ça arrive chez certains hommes peu sûrs d'eux, il n'en montre rien. J'apprécie instinctivement Jonathan. Je ne saurais dire pourquoi, c'est un feeling. J'ai travaillé dans de nombreux foyers au cours de ma vie, et je suis devenue sacrément douée pour lire les gens. Surtout les couples. On en apprend beaucoup à observer le langage corporel. Il y a certains gestes que j'ai vus chez des maris et qui suggèrent qu'ils exercent le pouvoir dans la relation. Par exemple, un baiser sur le front plutôt que sur les lèvres. Une main dans le bas du dos quand il marche. C'est subtil, mais j'ai appris à le noter. Jonathan ne fait rien de tout ça avec Suzette. Rien pour m'amener à penser qu'ils sont autre chose que ce qu'ils donnent à voir. Un couple heureux en ménage.
Alors, vous vous plaisez dans votre nouvelle maison ?
Nous demande-t-il.
Je l'adore.
Je lâche aussitôt, en oubliant la honte que j'ai pu éprouver à l'idée que ma maison ait pu servir d'étable pour les animaux de la ferme.
Je sais que c'est petit, mais...
Petit ?
S'esclave Jonathan.
Je trouve au contraire qu'elle a la taille parfaite. Je l'aurais choisie si elle avait été disponible. La nôtre est tellement ostentatoire, surtout pour nous deux.
Un autre point supplémentaire pour Jonathan.
Alors... « Vous n'avez pas d'enfants ?»
leur demande Enzo. Avant que Jonathan puisse répondre, Suzette s'empresse de s'exclamer
« Oh non, nous ne sommes pas des personnes à enfants. Ils sont bruyants et désordonnés. Ils ont constamment besoin d'attention. Sans vouloir vous vexer. Les gens qui sont prêts à consentir ce sacrifice sont des saints absolus. »
Elle rit en prononçant ces mots, comme si l'idée que quelqu'un veuille renoncer à sa vie pour être parent était hilarante.
« Mais ce n'est tout simplement pas pour nous », conclut-elle. « Nous sommes absolument d'accord sur ce point, n'est-ce pas, Jonathan ?»«
C'est vrai, oui »,
confirme-t-il gentiment.
« Suzette et moi avons toujours été d'accord là-dessus. »«
Ce n'est pas pour tout le monde », je conviens. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que pendant que Suzette s'extasiait sur le bonheur d'être sans enfant, Jonathan avait l'air morose. Je me demande s'ils sont vraiment absolument d'accord sur la question de la parentalité. Loin de moi l'idée de juger une personne qui ne souhaite pas être parent, mais c'est triste quand l'un des membres d'un couple doit renoncer à son rêve pour satisfaire l'autre.
Je disais à Millie que j'adore le côté douillet et pittoresque de leur maison,
reprend Suzette.
Je suis d'accord. La nôtre est vaste et extravagante. Honnêtement, nous ne savons pas quoi faire de tout cet espace. Surtout de notre immense jardin.
À la mention du mot jardin, Enzo se requinque.
J'ai une entreprise d'aménagement paysager si vous cherchez de l'aide pour le jardin.
Suzette arque un sourcil.
C'est vrai ?
Il acquiesce avec enthousiasme.
J'ai des clients dans le Bronx. Mais j'essaie maintenant de rapatrier au maximum mon travail ici. Ça fait beaucoup de routes d'aller jusqu'en ville.
L'autoroute de Long Island est mortelle, convient Suzette.
Oui, surtout vu la façon dont Enzo conduit. Chaque fois qu'il s'engage sur la 495, je suis certaine qu'il se précipite tout droit vers une mort violente. Il gagnait très correctement sa vie dans le Bronx, mais il s'efforce d'avoir plus de clients sur l'île pour ne plus avoir à subir ce long trajet tous les jours. L'objectif est d'avoir transféré toute son activité dans les quartiers environnants d'ici quelques années. Il y a suffisamment de familles aisées par ici pour que l'entreprise ait un bon potentiel de croissance et d'expansion.
Je suis excellent en aménagement paysager,
ajoute Enzo.
Vous pouvez me demander n'importe quoi pour votre jardin, je le fais.
N'importe quoi ?
Répète Suzette d'une voix dégoulinante de sous-entendu.
Tous les services d'aménagement paysager, oui.
Elle lui pose une main sur le biceps. Je pourrais bien vous prendre au mot. Et ensuite, elle laisse sa main là, tranquille, sur les muscles du bras de mon mari. Pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps. Sans rire, il doit y avoir une limite à la durée pendant laquelle on est autorisé à garder sa main sur les muscles d'un homme qui n'est pas le nôtre, non? Mais c'est sans arrière-pensée. Son propre mari est juste là, après tout. Et Jonathan n'a pas l'air de s'en émouvoir le moins du monde. Il sait probablement que Suzette aime flirter et il a appris à passer outre. Je me répète que je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Et je m'en convainc presque.